quatre figures, je les appelle alpha. Ça, c'est la figure alpha, bêta, delta et phi. Pourquoi ? Parce que entre bêta et delta, on peut intercaler gamma. Et entre delta et phi, on peut intercaler psi. Mais pour l'instant, je ne m'en sers pas pour alléger le travail. On verra s'il est nécessaire de faire intervenir ces deux étapes. Bon. Alors, c'est la question particulièrement. Ensuite, dans Subversion du sujet du désir, et il montre quelque chose qui nécessite une explication. Donc, pourquoi appeler ça le point de Capiton, ce qu'il appelle, puisque ce qu'il montre quand il parle de point de Capiton dans l'écrit de la Subversion du sujet, c'est qu'il montre ça. Et dans le séminaire 5, il explique que ces deux lignes qui se croisent, eh bien, celle-là est orientée comme ça. Et ce qu'il dit aussi dans le séminaire 3, c'est que quand on avance dans le discours, il y a un moment où il y a un effet de repoussement, il y a un mot signifiant qui apparaît majeur et qui produit un effet de rétroaction dans le discours. C'est seulement quand on arrive ce point d'avancement de l'énoncé, qu'on a un effet rétroactif qui donne le sens. Bon, et c'est évidemment particulièrement probant en allemand, puisque le verbe dans la phrase vient à la fin de la phrase. Bon. Alors c'est bien cette dialectique des Allemands, de la langue allemande, dont Maurras dit que les Français, la langue française, on ne peut pas tolérer ça. Milner, j'ai appris ça, j'ai lu ça dans Milner, dans son dernier livre, qui s'appelle « L'arrogance du présent ». Il dit ça, il dit les Français ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas faire de la dialectique. Et qu'à voir d'ailleurs ce qu'a écrit Sartre dans Critique de la raison dialectique, il écrit des choses très bizarres, des histoires de totalisation. Alors, moi, ça me ravit d'apprendre que Maurras a dit ça, parce que ça explique beaucoup de choses. Ça explique que Deleuze, il écrit avec beaucoup de bonheur des choses en langue française qui sont tout à fait formidables. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne rien vouloir dire du tout, mais c'est très joli. Donc voilà. Le problème, je voudrais le poser comme ça, le recours à la topologie, aux mathématiques, aux graphes, aux schémas chez Lacan, c'est une façon d'introduire cette dialectique qu'on va voir fonctionner dans les calculs qui accompagnent ces dessins. Ces dessins sont faits pour passer d'un modèle géométrique, quatre dessins, avec un mouvement qui est rétroactif entre les dessins, et de passer ça à une écriture algébrique qui est booléenne et qu'on va modifier, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à la logique et à la logique classique qui va être une logique avec une composition et deux valeurs de vérité. Et puis, imprime dans certains cas qui pourront être grand S et puis grand A dans d'autres cas. C'est-à-dire que A' qui couche le trou, il manque dans les disques, le manque dans S et le manque dans A vont être des valeurs logiques différentes du vrai et du faux. Il y a une réflexion derrière ce passage, de ces dessins, par l'intérieur de ces schémas, de ces diagrammes, ça s'appelle les diagrammes. Il y a une manière, n'est-ce pas, de parler de la vérité, de ce que c'est la fonction de l'assertion, de la tautologie en logique. Donc, derrière ça, il y a la question de l'énoncé, mais il y a aussi la question de l'énonciation. Il y a une écriture, il y a quelque chose qui est le problème de Tarski, c'est comment peut-on écrire un prédicateur, comment peut-on écrire un opérateur d'assertion. Parce que l'assertion, ça ne s'écrit pas tellement, puisque c'est justement, quand on l'écrit, on n'est pas très satisfait, parce que ça relève de l'énonciation et c'est justement quelque chose qui ne se trouve pas dans l'énoncé. Alors si on l'ajoute dans l'énoncé, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, en logique, et je pense que le freudisme va introduire une nécessité de faire les choses, d'écrire à partir du texte de Freud sur la négation. On voit que Freud en a tout à fait la notion. Mais quand Wundt lui dit qu'on ne peut pas parler de l'inconscient parce que Wundt lui dit que le psychisme est nécessairement conscient, ben Freud va parler de ça, il va écrire là-dessus à trois époques de sa vie. Il va écrire dans la trame de Thun, dès la science des rêves. Vous voyez qu'il y a deux façons de présenter l'inconscient, soit par les instances, dans un supposé appareil psychique, l'inconscient est une de ces instances. Vous avez le conscient, le préconscient, le but. Soit vous avez cette question de l'objection de Wundt. Bon, moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus parce que pour moi, ça correspondait à un symptôme majeur. Parce que je ne comprenais pas bien, je ne comprenais pas comment il fallait s'y prendre, justement, avec cet opérateur de vérité et avec cette question de l'énonciation. Enfin, j'étais psychotique comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire, je ne savais pas lire et j'étais en but à une difficulté. Ça me faisait faire des ratures. C'est-à-dire que je rendais des copies cochonnes, pleines de ratures. Et je ne pouvais pas faire autrement. J'avais un grand souci au milieu. Dès l'école maternelle, j'ai commencé à avoir des problèmes avec ça. C'était très amusant. La première fois dont je me souviens, c'était à propos d'écrire des chiffres. L'institutrice avait demandé d'écrire des chiffres. Alors il fallait écrire, elle disait 5, on écrivait 5, elle disait 1, on écrivait 1, et puis sur une ardoise ou sur un papier, puis on donnait ça ou on montrait ça. Et on avait un bon point. Et puis, moi, j'étais très fier parce que je les connaissais tous, les chiffres en question, donc j'étais sûr d'avoir le maximum de bons points. Et je ne sais pas pourquoi, quand elle a dit qu'il fallait écrire 2, j'ai commencé à écrire 2, j'étais pas content, alors j'ai fait 2, ça s'est devenu un paquet de merde, ça m'a fait perdre le bon point. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de ces ratures, de ces surcharges, de ces difficultés. Le problème de l'écriture, c'est, ou de l'énoncé, c'est qu'en classe, il fallait écrire proprement. Et on ne doit pas faire des ratures comme ça. C'est pour ça que j'adore l'enseignement de Lacan et son écriture, parce que dans l'enseignement de Lacan, on va découvrir à cette étape-là, on va découvrir en plus de S, on va découvrir S barré. Et en plus de A, on va découvrir A barré. Voilà. Donc, pour moi, le discours analytique, est, avec Freud et avec Lacan, Freud se révolte contre la remarque de Wundt, en disant comment peut-on dire qu'il n'y a pas d'inconscient. Freud ne le comprend pas. Il dit, dans, alors en 1915, dans, la, dans l'article sur l'inconscient, il dit c'est une Gleichstellung, c'est-à-dire c'est une mise à égalité entre le psychisme et le conscient, jamais exprimé, posé d'emblée. C'est là qu'on trouve le mot fixierung, que Lacan va reprendre comme fixation. Quand il parlera de la colle au moment de la dissolution, il parlera de la colle comme fixierung. L'école, il dit qu'il a dissous l'école et que ceux qui ont été dans l'école, ils doivent faire un travail de décoller. Et alors quelqu'un lui pose la question, est-ce que vous évoquez, avec cette histoire de, de colle et de décollage, vous évoquez la fixation? Il dit oui, oui, c'est la fixierung que vous trouvez dans cette expression de Freud, Gleichstellung, donc posé d'emblée, fixé d'emblée, et jamais expliqué. Freud, la troisième expression en allemand, c'est jamais expliqué. Alors, on ne peut plus dire ça, nous, après les années 40, fin des années 30, puisqu'il y a des deux grands articles de Tarski sur la question de la vérité et du prédicat de vérité, sont parus, l'un en juin, l'autre en 41. Bon, alors moi j'ai beaucoup commenté ces deux articles de cette façon. Qu'est-ce que fait Tarski? Tarski, à propos juste de cette histoire de vérité qui s'impose, hein, il définit une condition d'emploi du prédicat de vérité. Il dit, si on parle de la vérité de quelque chose, si on dit que quelque chose est vrai, ça s'appelle un prédicat de vérité, X est vrai. Et il y a des conditions d'emploi de ce prédicat de vérité, et il dit la condition d'emploi de la vérité, du prédicat de vérité, c'est que un énoncé qui est vrai, ça équivaut à l'énonciation de cet énoncé. Et alors, j'ai mis du temps à m'apercevoir que j'avais là déjà, j'approchais de la raison de mon symptôme, parce que réfléchissez au fait de ce que je viens de dire. Je veux dire que un énoncé est vrai équivaut à l'énoncé qui est l'énonciation de cet énoncé. Alors l'exemple fameux de Tarski, c'est la neige est blanche. Comme le dit Lacan, en logique, il y a beaucoup de blanc. Hein, même déjà dans l'Organon d'Aristote, vous avez le blanc joue un rôle extrêmement important. C'est curieux. Mais la neige est blanche, c'est la formule de Tarski. Donc, il écrit que la neige est blanche, entre guillemets, c'est-à-dire l'énoncé cité comme étant la neige est blanche, entre guillemets, c'est le nom de l'énoncé, c'est sa citation, c'est pas l'énonciation. Cet énoncé n'est pas énoncé, il est cité, avec les guillemets. Parce qu'il a là une réflexion sur le sujet du verbe dans le prédicat, X est blanc, et X est vrai. C'est blanc, il faut que le sujet dans le prédicat soit un objet, soit une constante, soit un énoncé singulier. Donc il met des guillemets. Les guillemets lui permettent de nommer. On ne peut pas dire par exemple P est vrai si elle seulement cite P. Parce que P est vrai, il y a une équivoque, on ne sait pas si c'est la lettre P ou si c'est la lettre qui désigne l'énoncé P. Alors, on peut essayer de mettre des guillemets autour de P, mais on ne peut pas employer des variables et des fonctions et des constantes. Ou bien on peut employer une variable et une constante, on peut dire A est vrai si P ou si X. Seulement, on perd l'effet sidérant de l'énoncé de Tarski, de la condition de vérité, qui est de dire la neige est blanche, entre guillemets, écrit entre guillemets, mais quand je le dis, il n'y a pas les guillemets. C'est là qu'il y a des guillemets. C'est donc un fait d'écriture. Quand, avec des guillemets, la neige est blanche, est vrai, cet énoncé cité est vrai, si et seulement si, c'est-à-dire c'est une équivalence logique, eh bien, la neige est blanche, c'est-à-dire l'énoncé, là, il n'est pas cité, il est dit. Et il a une valeur, il y a une énonciation. Ça, Tarski ne le voit pas. C'est ce que tout le monde va lui reprocher sans le voir. D'ailleurs, même, ce sera le cas jusqu'à Intika. Les critiques de Intika
Et les critiques de Kripke introduisent une modalité, font remarquer à Tarski que ça ne va pas, ce qui ne va pas dans son analyse de la condition de vérité, n'est-ce pas, de la condition d'emploi du prédicat de vérité, c'est que ça ne marche plus si on introduit des modes. Et l'assertion, c'est un mode. L'assertion, c'est un mode qui n'en est pas un. C'est l'identité même. C'est le fait de dire fait que ce qui est dit est nécessaire. C'était même d'ailleurs une des raisons du départ de Lewis en logique modale. Et c'est, en gros, la logique modale, c'est essayer d'attraper dans des énoncés avec des opérateurs l'énonciation. Et ça ne marche pas mieux que la logique classique non modale, la logique propositionnelle. Ce qui m'a même toujours frappé, c'est que Lewis, celui qui est l'initiateur des logiques modales à l'époque contemporaine, il a cette remarque de dire que les énoncés, justement, qui sont pas encore modaux, qui sont les énoncés de la logique classique, les énoncés qui correspondent, par exemple, en calcul des propositions, qui sont des énoncés. Qui sont des énoncés qui correspondent à une évaluation en table de vérité, qu'on comprend parce qu'on sait quelle est la table de vérité qui leur correspond. Ils ont un sens, c'est une certaine liaison du vrai et du faux. Et oui, s'il dit, tout ça, c'est certainement, ce n'est certainement pas absurde, et ça a un sens. Bon. Par contre, lui, ce qui va l'intéresser avec la logique modale, c'est le fait qu'il y a une différence entre le fait de dire P implique Q ou P implique Q est vrai. Et là, P implique Q est vrai, il faut écrire ce est vrai, ou ce caractère de nécessité. P implique Q est nécessaire, c'est ce que Quine va appeler le conditionnel valide. Quine, il fera la différence pour reprendre cette question de Lewis et de Tarski. Il fera remarquer que le problème est résolu si justement on fait la distinction entre l'implication matérielle, comme dit Lewis, qui est sûrement cohérente et pleine de sens, et si on fait la différence avec le conditionnel valide, c'est-à-dire l'implication matérielle valide. Vrai. Mais Quine, il ne voit pas le problème. Et d'ailleurs, Lewis, je vous dis, c'est très curieux parce qu'il dit. Le sens vérifonctionnel du calcul des propositions ne pose aucun problème, c'est sûrement cohérent et c'est pas absurde. Et c'est la nécessité qui est nécessaire de traiter. Ce que va faire Tarski d'ailleurs, le nécessaire, c'est ce prédicat de vérité, c'est de dire c'est nécessaire ou c'est vrai ou bon. Ou bien on pourrait dire aussi, nous, si on se dirige vers Freud, on pourrait dire c'est dit, tu l'as dit, Bouffi. Ce serait l'opérateur de tu l'as dit. Vous voyez, c'est ça le prédicat de vérité et le mode nécessaire. Mais alors du coup, il considère que le cas où il n'y a pas cet opérateur, il est non absurde, sûrement cohérent, évident pour tout le monde. Lewis, il le dit comme ça, il dit oui, bon, ben, sûrement que l'implication matérielle, ça peut se comprendre, c'est intelligible pour tout le monde, et ça ne pose aucun problème d'absurdité. Mais moi, je tiens que même déjà dans la pratique du calcul des propositions ou de la coordination logique, il y a un problème déjà modal, même dans le fait de faire une logique non modale. Bon. Eh bien, Intika et Kripke, ils vont dire ça à l'envers, ils vont dire que dans la formule de Tarski, il y a quelque chose de modal qui peut contredire la formule de Tarski. Je vous donne tout de suite l'exemple d'Intika, le plus connu, c'est l'énoncé John. Mon ami John, c'est un énoncé en anglais, c'est des Américains. Il parle aux Américains, ils sont à Princeton. Alors John, on parle de John. John gagne toujours au jeu. Bon, alors vous voyez, l'énoncé de Tarski, dans une phrase comme ça, c'est de dire John gagne toujours au jeu. Et vrai, si et seulement si, John gagne toujours au jeu. Là, on est dans la formule de Tarski. De ce qui va nous occuper, nous, avec ces hachures, hein, parce que ce que je suis en train de vous dire, là, c'est pour vous introduire à ce jeu de hachures. Qu'est-ce que c'est que la nécessité? John gagne toujours au jeu. Tarski dirait John gagne toujours au jeu. Et vrai, si et seulement si, John gagne toujours au jeu. Mais il ne fait pas attention du fait que la seconde occurrence, c'est plus une citation. Lui, il a insisté, tous les profs de philo. C'est là que c'est marrant, vous voyez que tous les profs de philo et tous les gens qui n'ont rien compris au problème. Vous les voyez, ils répètent tous la même chose. C'est ça qui est très marrant, c'est facilement repérable qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils vous racontent. Il y en a un qui s'appelle Vincent Descombes, là, qui a fait un livre là-dessus, sur l'inconscient, nécessaire, ou l'inconscient malgré soi ou malgré tout. Le type, on voit, mais il y en a plein, des logiciens, des gens qui font de la philo, il n'y en a pas beaucoup en maths qui s'intéressent à ça. Ils y comprennent encore peut-être encore moins, quoi que ce soit. Donc, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est gratter, faire des calculs, et puis tout ça tombe juste. Bon, donc le point, en logique, c'est très très net qu'ils ne comprennent pas le truc. Ben oui, ils sont toujours en train de s'intéresser au cas modal qui est déjà traité, et ils ne s'aperçoivent pas que le cas non modal est plus compliqué. Quel est le cas modal que prend Intika pour dire, pour montrer, pour contredire Tarski avec le cas modal et pas avec le cas non modal, pas avec l'écriture? Tarski, Intika, il dit la chose suivante: Jones gagne toujours au jeu. Bon, alors maintenant je vais remplacer cette phrase, Jones gagne toujours au jeu, est vrai si et seulement si Jones gagne toujours au jeu, par la phrase: je pense que Jones gagne toujours au jeu. Alors, je pense que Jones gagne toujours au jeu est vrai, si et seulement si je pense que Jones gagne toujours au jeu. Et il dit, ben vous voyez, maintenant, Jones, il gagne plus au jeu. Puisqu'il y a je pense. Donc, Jones gagne toujours au jeu ne veut pas dire qu'il gagne toujours au jeu. Donc, le fait de le dire n'est pas toujours vrai, puisque c'est seulement ce que je pense moi. Vous voyez, c'est ça la modalité qu'ils introduisent. Bon. Alors que le problème, il n'est pas là, il est pire, parce que déjà, même si on ne met pas « je pense », vous voyez bien qu'il y a déjà, Tarski l'avait noté, lui aussi à reverse, à l'envers, il avait noté en mettant les guillemets du côté de l'objet, sujet, du prédicat, pour que ce soit une citation qui soit un énoncé singulier, donc un objet. Mais il ne s'est pas occupé de ce qui se passait du côté de « la neige est blanche ».« La neige est blanche », entre guillemets, est vrai. Okay. Si et seulement si la neige est blanche. Mais qu'est-ce que c'est cette seconde occurrence de la phrase, la neige est blanche? Est-ce que c'est... Bon, c'est pas la citation, donc c'est un énoncé qui est dit. Mais Tarski ne s'intéresse pas au fait que, étant dit, hein, c'est la phrase précédente, elle est équivalente non pas seulement à la phrase qui est dite, mais à la phrase qui est dite, plus le fait de le dire. Donc que le prédicat de vérité, c'est un prédicat qui écrit que la phrase, elle est dite. Et que c'est un fait de dire. C'est donc que le prédicat de vérité, il a quelque chose à voir avec le dire. Mais le dire, il est effacé, comme le dit très bien Lacan. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit. Et tous ces gens montrent magnifiquement que tout le monde, comme les parents qui nous traumatisent, nos charmants parents, nous qui sommes des charmants enfants, traumatisés par le malentendu des parents, ils oublient qu'ils parlent. Donc pas plus Tarski que les autres, ça s'assoit que la neige est verte ou la neige est blanche est vraie. Si et seulement si la neige est blanche, c'est-à-dire vous avez là le fait que d'abord vous avez des guillemets chez Tarski, puis après ben, on ne spécifie rien, alors que je suis désolé, moi j'entends cette phrase de Tarski qui dit la neige est blanche entre guillemets est vrai si et seulement si quelqu'un dit la neige est blanche. Vous voyez, c'est énoncé, c'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment où c'est énoncé que c'est équivalent au fait non seulement de la citation, mais que la citation, maintenant, elle devient vraie. Elle devient vraie, pas du tout, parce que c'est l'équivalent de la neige est blanche. C'est l'équivalent de la neige est blanche en tant qu'énoncé. Et alors, donc, il y a déjà de l'énonciation dans la phrase de Tarski. C'est pas que, c'est au contraire de ce que dit Intika, de toutes les critiques des savants à propos de Tarski. Tout le monde critique Tarski en disant que si on introduit une modalité, la définition ne va plus marcher. Et moi, je dis qu'au contraire, il y a nécessairement de la modalité. Il y a même une modalité qui va définir pour nous la fonction phallique. Alors là, il faut que j'explique pourquoi la fonction phallique, pour ne pas se faire tirer par les cheveux. Mais le fait de dire, hein, c'est ça la modalité, c'est une modalité freudienne. Il n'y a que le freudisme qui reconnaît la fonction phallique dans cette modalité, qui n'est pas le simple nécessaire, qui est le fait de dire. C'est ce que dit Lacan, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Et c'est ça la fonction phallique. C'est que je suis en train de parader quand je parle et que ma parole est autoritaire, nécessairement, voilà, Contrairement à la philosophie anglaise, vous voyez, qui commet la même erreur que tous les logiciens, contrairement à la philosophie du langage de Austin, qui écrit « Qu'en dire, c'est faire », vous voyez bien que qu'est-ce qu'Austin découvre ? Il découvre qu'il y a certains énoncés qui sont performatifs. La DXIS, les pronoms personnels, les verbes performatifs. Bon, il y a un très joli article de Benveniste là-dessus, dans les problèmes de la logique générale. Il se félicite, Benveniste, c'est peut-être justement le problème de Benveniste, il se félicite que les Anglais se soient enfin intéressés au langage, lui il est linguiste. Comme linguiste, il se félicite, il s'intéresse enfin au langage. Les philosophes se tournent vers le langage, peut-être que ça va faire de la meilleure philosophie. C'est un peu tard, parce que c'est déjà fini depuis Hegel. Alors ça donne quoi ? Ben, ça va donner plutôt du logico-positivisme. Pourquoi ? Ben, vous le voyez bien. Les Anglais comme Austin, qu'est-ce qu'ils découvrent ? C'est que il y a des paroles qui sont des actes. Bon, ce ne sont pas d'ailleurs vraiment des actes. C'est un peu minimiser les choses. Là, chez Austin, ce sont des actions. Il y a des paroles qui accomplissent ce qu'elles disent. Elles le désignent et elles l'accomplissent en même temps. Hein ? Je t'ordonne de fermer la porte. J'ouvre la séance. C'est les verbes performatifs. Et puis, il y a de la DXIS. Du performatif, c'est la DXI, c'est du performatif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui implique le sujet qui énonce une phrase ou un mot, hein, et qui est mis à contribution dans la lecture. Moi, je vous propose d'appeler ça la lecture, parce qu'on ne va pas se gargariser avec l'écoute du psychanalyste. Déjà, si le psychanalyste, même dans les paroles qu'il entend, il sait lire, parce que les rêves, c'est à lire. Donc, appelons ça la lecture. Vous voyez bien que dès que quelqu'un entend, lit, bien, il faut entendre justement ce caractère soi-disant performatif, mais il est performatif dans n'importe quelle énonciation. C'est ça la différence entre la philosophie anglaise, qui donne ensuite la théorie de la communication de Robinson et qui donne toute cette soupe là, qu'il voudrait nous faire croire ensuite ils vont aller dans la com. On tombe dans le marketing pour vendre des téléphones portables, ils viennent chercher Robinson. Vous voyez, la vente du téléphone portable ou de l'ordinateur, ou la communication serait quelque chose de sérieux, la publicité, le marketing, voilà. Il faut communiquer, ce serait sérieux parce que c'est scientifique aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des philosophes anglais, logiciens et américains, logiciens, qui ont fait une théorie de la communication. Donc si vous parlez de communication, vous êtes dans la science. Hein ? Complètement psychotique, les mecs. Ils ont besoin d'être dans la science pour parler. Ils n'ont qu'à faire du commerce, comme de toute façon. En plus, le marketing, c'est fait pour vendre de la soupe, c'est même pas du commerce. Autrefois, les commerçants, ils savaient ce qu'ils vendaient. Aujourd'hui, ils ne savent même plus. Hein. Ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut faire de la com pour vendre de n'importe quoi. Bon. Alors, moi, ça m'exaspère. Parce que moi, j'aimais bien aller acheter des foulards Hermès. C'est vrai que j'ai fait ça toute ma vie, vous voyez. D'aller acheter un Mont Blanc, vous voyez. Aujourd'hui, même les mecs qui vendent.
Ça s'explique, Mont Blanc.
Oui, mais même les mecs qui vendent Mont Blanc, aujourd'hui, ils ont fait du marketing. Et j'ai dans plein de magasins Mont Blanc. Vous avez des types qui ont fait une étude de commerce. Et aujourd'hui, vous avez des types qui vous vendent même des lavabos. Tout, ils sont en exécutive pour vous vendre n'importe quoi. Bon. C'est une grande plaisanterie. Mais n'empêche que toute cette histoire de dénonciation et de performatif y est pour quelque chose de manière cruciale. Pourquoi ? Bon, parce que Davidson, c'est ce qu'il a essayé de reprendre la définition de Tarski. Et moi, je vous dis que il rate à tous les coups. Qu'est-ce qu'il rate ? Quelle est la différence entre Freud et ce qui fait que Freud, ça n'aura jamais plus rien à voir, même s'il a été neurologue, avec la neurologie, ni avec le cognitivisme ? C'est le fait que, pour Freud, ce que nous dit Freud, c'est que, et Lacan va pousser les choses à l'extrême de ça, parce que c'est absolument judicieux, tout le fait de parler est performatif. Donc c'est pas seulement la DXI, c'est ici parce que je suis là. Hein, ici, c'est comme les pronoms personnels, c'est lié à la position de celui qui parle, vous voyez. Donc il y a toujours cette histoire du sujet qui est impliqué dans ce qu'il dit. Bon, ça concerne ce sujet, l'acte. L'action. Moi, je dis que c'est des actions, c'est pas des actes. Bon, je dis ici, et puis là-bas, près de la fenêtre, c'est là-bas. Si je vais là-bas, hein, là-bas va devenir ici. Et vous voyez, maintenant, je suis ici. Et là-bas, là-bas, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure.
Là, on est dans la langue française. Hein.
Dans la langue française. Hein. Et alors, cette DX6, là-bas, ici, eh bien, c'est la même chose que les pronoms personnels. Qu'est-ce que l'enfant doit comprendre? Quand on dit « elle », ça peut être sa mère, mais ça peut être la voisine. Ça dépend de qui on parle. Quand on dit « je », c'est celui qui parle, qui est désigné par « je ». Hein? C'est même la formule que donne Benveniste. Hein? « Je », c'est le, ça désigne le sujet de celui qui prononce la phrase contenant « je ». Bon. « Tu », c'est celui à qui on s'adresse. Voilà ce que c'est qu'un existe. Ça, c'est performatif, parce que il faut attendre la performance effectivement effectuée. Là, vous commencez à approcher de la notion du dire, de Lacan. Hein? Qu'on dise reste oublié. Il faut là ne pas oublier le dire, il ne faut pas oublier l'effectivité, l'accomplissement de l'énonciation qui va avoir un lien avec la manière d'entendre, de lire, moi je préfère dire lire, ce qui a été dit. Pour piger, vous avez qu'à appeler ça piger. Hein. Ce qui a été dit, ça nécessite que vous soyez dans le coup. Hein. Et c'est pour ça que la signification va être issue de ces performances. Hein. Les mots d'esprit, ils sont issus justement d'une performativité qui est liée au lien social, au discours de ceux qui s'entendent. Regardez, un sobriquet, quand vous désignez la véritable dimension de l'énonciation, vous la trouvez dans le sobriquet. C'est pas le nom, c'est pas la même chose que l'administration de l'état civil. Quand quelqu'un dans un groupe, au bout d'un moment passé d'exercice de la vie du groupe, de l'exercice du langage dans un groupe, dans un lien social, quelqu'un lance un mot pour désigner quelqu'un d'autre du groupe. Par exemple, on l'appelle, je ne sais pas moi, Gordo, le gros, tout le monde sait qui c'est. Bon. C'est bien la question des nombres cardinaux, hein. C'est par opposition aux nombres ordinaux que vous avez là. Le nombre ordinal, il faut dire 1, 2, 3, 4, tandis que le nombre cardinal, c'est 4. Alors, si vous savez, si vous faites partie de la collectivité, du lien social, du clan, du club, 4, vous voyez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Tandis que si vous êtes un flic, vous demandez les papiers d'identité à quelqu'un, parce que ce qui s'appelle Gordo ou qui s'appelle Jules, le flic, il ne le sait pas, alors il croit qu'il va s'en sortir. Bon, toute l'administration jusqu'à l'INSEE, c'est très bien, hein, moi je ne suis pas en train de critiquer les pratiques de statistique nationale, hein, mais il ne faut pas confondre les nombres ordinaux avec les nombres cardinaux. Le nombre cardinal, c'est de l'énonciation, c'est de la nomination, c'est une métaphore. Je ne sais pas ce que c'est 4, mais je sais que 4 existe. Et je sais reconnaître 4 d'une manière extraordinairement étonnante. Mais comme le disait Lacan, qui sait combien y a-t-il de colonnes sur la façade de l'église de la Madeleine? Bon. Et la réponse de Lacan, c'est de dire l'architecte qui a construit la Madeleine. Lui, il sait combien. Tous ceux qui passent devant ne savent pas. Alors, cette question comme ça de l'énonciation, vous voyez, c'est quelque chose qui est très mystérieux parce que ça nécessite le lien social pour que ça fonctionne. Hein. Et ça, c'est la principale raison de parler du lien social, du discours.